Casino avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio à Avignon, par exemple, sur 95.2, exactement Florence, et vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Invino, aujourd'hui un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec l'excellence du vignoble de Pauillac, le prix parfois délirant de certaines bouteilles de vin, les cépages qui font de la résistance, version cinéma, le vino quiz pour gagner les cadeaux. Bref, 100% plaisir en compagnie de Florence Corbalan, Corinne Boulbès, David Cobold et Philippe Orbach. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Alors
bonjour.
Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio retrouve Florence Corbalan, sommelière et chanteuse lyrique, avec un invité qui est très sympa, Fabrice Léger. Qu'est-ce qu'il fait, Fabrice?
Alors, c'est un Parisien déjà, on en parlait tout à l'heure, il est un vrai passionné de vin, et avec votre DESS, technique statistique et informatique de l'Université Paris en poche, vous devenez le cofondateur du cabinet Celsius en 2001. Quelle était l'idée fondatrice de Celsius ?
Alors bonjour à tous, merci de m'inviter. Alors Celsius, c'est un cabinet d'études marketing spécialisé dans la relation client. Donc l'idée fondatrice, c'est dans un secteur concurrentiel, la qualité de la relation client, c'est un élément de différenciation. Et le corollaire de cela, c'est de disposer d'outils de mesure de sa qualité de relation client. Donc voilà comment l'aventure est partie. Et puis nous avons aussi travaillé beaucoup sur les aspirations des consommateurs. C'est-à-dire que souvent, on se pose la question, les marques vous interrogent sur qu'est-ce qu'attendent finalement nos clients ? Quel service on peut mettre en place ? Donc là, vous pouvez y répondre de différentes manières. Souvent, il y a des études qu'on appelle Cali, on ne va pas rentrer dans le détail, mais et nous, l'idée, ça a été de dire, on va réfléchir en fait à ce qui est aspirationnel derrière. Donc on a étudié les succès, et en étudiant les succès, on a réussi à déterminer des aspirations qui vont expliquer justement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et comment on peut améliorer les choses.
Alors justement, vous vous rendez compte que les domaines viticoles et les marques ont besoin de développer une relation plus authentiques avec leur clientèle. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour permettre cela ?
Alors, l'idée fondatrice du salon, en fait, moi, vous l'avez souligné.
Alors, comment il s'appelle ce salon ?
Le salon des outsiders.
Bon, outsiders.
Oui, le salon des outsiders.
C'est la 7e édition dans quelques jours, là.
Hein. Exactement. 7e édition, donc les 15 et 16 novembre au Shangri-La. Alors, dans mon parcours d'amateur de vin, j'ai emprunté les chemins de traverse. J'en ai eu de nombreux. Et j'ai rencontré, en fait, Jean-Marc Carin, qui est un critique.
Indépendant,
reconnu international. Sur sa connaissance des vins de Bordeaux. Et Jean-Marc Carin a écrit un bouquin, en fait, le guide Carin des vins de Bordeaux en 2011, dans lequel il identifie des vins outsiders et il les qualifie en disant que ces vins dont le goût est supérieur à ce que l'étiquette laisse paraître. Donc l'idée de départ, c'est celle-ci. Et pour le coup, on décide de mettre en avant ces vins à travers un salon et de scénariser aussi la mise en avant de ces vins dans le salon, qui est un parcours de visite. L'idée, c'est que finalement, les visiteurs soient accueillis dans un environnement le plus convivial possible. On évite les chocs gustatifs, donc il y a une verrerie, on propose du pain, de l'eau pour se refaire le palais, on sert suffisamment de vin pour que les gens puissent avoir une bonne idée de la qualité de ce vin. On fait attention également à la température.
Combien de vignerons au total ?
33.
Donc c'est une vraie sélection.
C'est une vraie sélection. Il y a 33 stands. Et je dirais que l'idée, c'est que finalement, les consommateurs puissent faire jouer leur propre goût. Ils sont dans un environnement, entre guillemets, sécurisé. La sélection est faite pour eux. Et ensuite, il y a les vins qui sont présentés selon que les vins aient été produits sur la rive droite ou sur la rive gauche. Et ils dégustent. L'idée, le nombre, c'est aussi qu'ils puissent tout goûter. Et ensuite, ils vont pouvoir faire jouer, encore une fois, leur propre goût.
Alors, qu'est-ce qui va se passer les 15 et 16 novembre ?
Alors, les 15 et 16 novembre, la grande dégustation donc, commence le vendredi à partir de 15h jusqu'à 21h.
Absolument.
Au Shangri-La, donc dans le salon Bonaparte. Là, vous avez donc 33 vignerons qui seront présents. J'insiste aussi sur le profil des personnes qui sont présentes, des directeurs techniques. Donc, il y a aussi les échanges. On goûte, mais on vient échanger. Et c'est finalement... on prend connaissance de secrets dévoilés. Et ça, ça nous semblait aussi très important dans cette relation de venir goûter les vins et d'aller à la rencontre de ceux qui les font.
Les propriétaires sont présents ou c'est uniquement les directeurs techniques ou les deux?
Alors les deux, quand les propriétaires ont un rôle dans la production,
exactement.
C'est un salon qui s'adresse à qui, aux professionnels ou aux particuliers?
Alors il s'adresse à tout le monde, quel que soit finalement le niveau dans lequel on se situe dans son aventure autour du vin. On peut démarrer, on peut être confirmé, professionnel bien évidemment, parce qu'encore une fois il y a une sélection qui est présente. Ce sont des vins, on l'a souligné, dont le goût est supérieur à ce que l'étiquette laisse paraître, donc ce sont des vins qui sont peu connus, donc il y a aussi, ça développe l'estime de soi quand vous mettez à table ces vins, et en plus ils sont délicieux.
Tout le monde ne les a pas forcément. Est-ce qu'on peut les acheter?
Alors, bien sûr.
Ça mais sur place, c'est un salon de vin, c'est ça?
Alors, oui, alors c'est pas forcément une vente immédiate, c'est-à-dire qu'on peut pas les acheter, on repart pas avec sa caisse de vin, mais en revanche, bien sûr, l'idée c'est de pouvoir commander et de pouvoir s'offrir les vins qui sont proposés.
Et est-ce qu'il y a des bons plans financiers? Est-ce que là, les 33 sont super bons et pas chers?
Oui.
Oui,
tout à fait.
Quelques noms, c'est peut-être de domaines coup de cœur là, liste peut-être, Florence, des exposants.
Alors les domaines coup de cœur, alors c'est toujours délicat parce que si j'en cite que quelques-uns, les autres vont. Alors simplement sur la rive droite, par exemple, on a des crus comme À nos amours du château Lafon-Fourcat, qui est une sélection absolument fabuleuse. C'est un 100% Merlot, c'est délicieux.
Pas connu du tout,
mais qui gagne à être connu. On a des crus comme le château Brandberg. Là aussi, fait par M. Dalibaud, un cru absolument exceptionnel. On a Puy-Séguin, Guibault Lafourvielle. Après, on a Château d'Alem. Alors, dans les crus de Saint-Émilion, on a, en cru classé, il y a Grand Pontet, mais qui est peu connu du grand public, qui fait des vins, encore une fois, absolument merveilleux. On a la Fleur de Boire à la Lande. On a également Château Bellevue, en face d'Angélus, qui est là aussi un vin absolument.
Disons qu'il y a des assez connus et des pas connus.
Oui, oui, c'est ça. Ce qui est très bien,
oui,
David.
C'est
un bon mix.
Exactement. Vous avez Moulin au Laroc, par exemple, qui est un vin absolument remarquable. Et à chaque fois qu'on le fait déguster
Et
les gens, en fait, tournent la bouteille pour savoir ce que
c'est. Fabrice, pour terminer, 33 exposants. Le 33, ça me fait référence à quoi?
À la gérante?
Non.
Ma réponse que j'attendais quand même.
Non, je vais vous décevoir. Non. En fait, 33 exposants. On avait, lorsqu'on a fait les plans d'implantation du salon,
ça fait
33.
Un flop. Mais pensez-y pour l'année prochaine, parce que 33, bon. Merci en tout cas, Fabrice et Florence, une vidéo sur radio à présent.
Alors, peut-être simplement juste rappeler le.
Bon, le prix, comment ça coûte, tiens?
Alors, la dégustation, 25€ pour une journée, 30€ pour les deux jours.
C'est pas cher. Il y a un site internet, peut-être?
Il y a un site, oui, exactement. lesalondesoutsiders.com.
D'accord, comment c'est écrit? Le salon des comme ça se prononce. Merci beaucoup Fabrice, merci aussi Florence, Sylvie de Sud Radio. Retrouve Philippe Orbach, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, boulevard Haussmann, pour nous parler d'un. On reste à Bordeaux, dans une région star, quoi. Pauillac,
exactement. C'est l'une des appellations parmi les plus connues du Bordelais, située en plein cœur du Médoc, en plein cœur à la fois au sens propre comme au sens figuré, parce qu'on est vraiment dans le cœur du sujet, dans le cœur du Médoc physique. Puisqu'on est vraiment au centre, entre Saint-Estèphe et Saint-Julien, et presque à mi-distance entre la ville de Bordeaux et l'extrémité nord, j'allais dire, de l'estuaire de la Gironde. C'est une appellation très connue parce qu'elle abrite beaucoup de crus classés. Qui ne connaît pas Mouton Rothschild et ses frasques sur les étiquettes, notamment depuis 1924. Pichon, bien entendu, mais encore Château Latour, Château Lynch-Bage, voilà, ce sont des grandes stars de cette appellation, tout comme Lafitte Rothschild, bien entendu, qu'il ne faut surtout pas oublier. Mais ce qui m'interpelle ces dernières années à Pauillac, c'est des châteaux beaucoup moins connus qui font vraiment de jolies choses. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler un petit peu. Je vais vous en citer quelques-uns. D'abord, un petit mot sur l'appellation. C'est 1200 hectares. Ils sont assez privilégiés à Pauillac. Franchement, il n'y a pas grand-chose à jeter. C'est comme un peu à Saint-Julien. Ça coûte assez cher l'hectare, certainement, mais c'est un peu justifié par la qualité des vins produits. Ce sont des graves dites garonnaises. Donc, c'est des sédiments, pas sédiments d'ailleurs, une partie sédimentaire qui vient des Pyrénées et qui ont été apportées par la Garonne et qui ont trouvé une terre de stabilité grâce aux Hollandais. qui ont assaini un peu ces terroirs qui étaient des marécages finalement pour la plupart. Et c'est qu'à partir du 16e, 17e siècle qu'on a vraiment développé
des cultures. En plus, ils n'ont pas bouffé les moutons parce que les Hollandais voyagent toujours avec leur maison sur le dos, avec leur nourriture. Donc ils ont laissé les moutons.
Ils ont laissé les moutons dans l'appellation Pauillac, exactement. Qui au départ venaient. Bon, aujourd'hui, c'est un peu symbolique tout ça. Hein, mais effectivement, les moutons venaient brouter l'herbe et finalement entretenir correctement le sol où pousser ses vignes.
Fertiliser.
Et le fertiliser aussi avec les engrais naturels, exactement.
C'est à la fois une tondeuse et un engrais.
C'est extrêmement utile. On devrait mettre des moutons dans tous les vignobles. Ouais. Alors, l'encépagement est assez classique sur ces types de géologie. Alors, le grand cépage de l'appellation, c'est le Cabernet Sauvignon, qui donne des vins denses, structurés, un peu puissants, avec des tanins qui sont extrêmement utiles pour la garde. Alors, jeune, c'est des fois un petit peu robuste, même si aujourd'hui, on a tendance à travailler pour faire en sorte d'assouplir les tanins dès le départ, tout en faisant en sorte qu'ils soient présents. On voit apparaître un peu plus de merlot qu'avant. C'est un petit peu dommage, surtout avec l'évolution du climat, parce que les Cabernet Sauvignon, qui peuvent manquer de maturité parfois, avec ces goûts un peu végétaux, c'est quelque chose qui n'est pas très tendance. Mais ceux qui en ont gardé, je trouve, aujourd'hui, sont récompensés, parce que l'évolution, justement, permet d'avoir des cabernets mûrs, tout en gardant une certaine fraîcheur, ce qui est très important. On peut avoir, bien sûr, de la Carménère, du Malbec, du Petit Verdot, etc. Tout ça est intéressant aussi. Il y en a pas beaucoup qui ont tous les cépages. Le petit verre d'eau également a tendance un peu à prendre un peu du terrain aujourd'hui, parce que c'est un cépage tardif, mais avec l'évolution justement du climat, on arrive à les faire mûrir plus que d'habitude. On produit que du rouge à Pauillac, même si on a tendance à avoir quelques domaines qui font un peu de blanc, c'est pas dans l'appellation.
Ils sont encore en Bordeaux.
En Bordeaux générique. Ouais. On peut faire du rosé aussi, pourquoi pas.
Pourquoi pas du pétillant.
Tout ça ne rentre pas dans le
vins du naturel
de l'appellation. Ce sont des vins assez racés, des vins plutôt de garde. C'est vrai que goûter un Pauillac, que ça soit un grand cru, c'est encore pire, quelque part. Mais au bout de 5 ans, c'est pas franchement intéressant.
Oui, il faut vraiment l'attendre. Voilà. Quelques châteaux,
au bout de 10 ans,
Philippe, je sais pas, vos 35 châteaux préférés, par exemple.
Alors, quelques châteaux. Alors, Pontécané, je n'ai pas cité parmi les grands, mais ça fait partie des grands, mais on en parle de plus en plus aujourd'hui parce qu'ils ont fait une démarche un petit peu plus attentive, peut-être,
mais par rapport à leur terroir.
Mais ça reste très cher. Et puis, il y a des vins beaucoup plus intéressants. Pédasco, qui est un cru classé, par exemple, est vraiment très accessible en prix. C'est quelques dizaines d'euros, je veux dire. Pibran, qui est un très joli domaine aussi, c'est très accessible. Un de mes coups de cœur récents, c'est Dom Pierre.
Ah, je partage.
Avec Michel Haroldi, qui faisait formidable. Des magnifiques déjà à Fronsac à l'époque.
Donc il faut y aller,
quoi. Qui produit effectivement un Pauillac juste remarquable.
Merci beaucoup, Philippe Orbach. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au Paravin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec le Vino Quiz.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave, Nicolas, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Florence Corbalan et le Vino Quiz.
Oui, Alain, je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, à savoir le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. Voici la question de ce week-end. De quelle province vient le domaine Chiroulette ? Réponse A, de Gascogne. Réponse B, de Bretagne. Réponse C, de Rome antique. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Florence. Invino sur Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux. Pour, on va le dire, un coup de gueule. Un coup de gueule sur le prix au moins d'un vin.
Encore ?
Non, mais là, c'est un coup de gueule. Ce n'est pas une explication d'un défaut dans le vin. Alors, tout à l'heure, notre invité Fabrice Léger nous a parlé des vins qui boxent au-delà de leur catégorie, c'est-à-dire dans la qualité supérieure à ce qu'on présuppose sur l'étiquette. Là, je vais vous parler d'un vin dont le goût est certainement très inférieur à ce que le prix prétend.
Ah, ça, c'est pas...
Alors, Alain Maté, qu'est-ce que vous penserez d'un vin qui se vend à 1000 euros ?
1000 euros, c'est très cher, David.
C'est très cher. Qu'est-ce que vous penseriez d'un vin qui se vend à 30 000 euros ?
C'est très, 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 très cher, David.
Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous penseriez d'un vin qui se vend à 31 000 euros ?
C'est une blague. 31 000 euros.
C'est vrai, oh là, ça existe. Là, là,
là. Alors, ça en fait des dîners au bistrot du sommelier Boulevard Haussmann à Paris. Hein.
Bah oui, je ne sais pas combien de caisses de Lafitte on pourrait se payer pour ce prix-là.
Et oui, déjà, ça en fait des litres de Bagnoules et des jolis grenades.
Alors, c'est qui
Ah oui, c'est le suspense, ça s'en
compte. C'est à Bordeaux.
Alors, et c'est à Bordeaux. Alors, mais c'est un espèce de outsider, mais dans le mauvais sens du terme, à Bordeaux, pas dans le sens du salon
dont on parlait il y a quelques minutes.
Où le rapport qualité-prix est excellent. Là, on a quelqu'un qui délire totalement. Alors, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, où j'ai parlé d'un livre qui parlait de ce vin-là, dont le titre était ou est toujours « Le goût retrouvé du vin de Bordeaux ». Alors, je ne sais pas pourquoi on voudrait retrouver le goût du vin de Bordeaux autrefois, parce que...
L'a-t-on perdu Et était-il bon à l'époque?
Et le propriétaire dit simplement « On retrouve la finesse des vins Prilophoxerix, Liber Pater, car c'est ça le nom du vin, et le seul vin au monde à vous permettre de goûter le vin que buvait Napoléon ». Est-ce que j'ai envie de goûter le vin de Napoléon? Moi, non. On l'a foutu sur une île et de toute façon, il buvait du vin de Constance. Donc, c'était un vin sucré. Et à Paris-Til, il aimait le Chambertin, mais beaucoup dilué dans de l'eau. Donc, en aucun cas, ça ressemble.
Vous n'auriez pas un truc contre Napoléon, vous, par hasard?
Écoutez, Alain, j'ai eu un ancêtre qui était assez sérieusement blessé à la bataille de Waterloo, mais bon, on a gagné le match. Donc, ça finit bien. Non, soyons sérieux. Ce type, il s'appelle Loïc Pasquet. Quand ce livre est sorti au printemps dernier, son vin se vendait 6 550 euros la bouteille
déjà
sur le marché. Mais il disait, verbatim, il ambitionnait de dépasser le prix de la Romanée Cantée. Donc son dernier millésime, il l'a sorti, il l'a fait, au moins lui, il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Il l'a sorti à 31 000 euros le flacon.
Ça concerne de mémoire 500 flacons.
500 bouteilles. Mm-hmm. Peu importe. C'est
une
complètement cuvée
dingue. Particulière, etc. Et après, il y a un côté surenchère un peu artificiel.
Non, mais il n'y a que de la.
Mais à part lui, qui a acheté?
Je ne sais pas qui achète. En tout cas, des gens qui ont plus de pognon que de bon sens. Ça, c'est évident.
Ouais, est-ce qu'ils achètent? C'est vraiment la vraie question, c'est ça. Quoi.
Alors, est-ce qu'il est vendu? Ça, j'en sais rien. Ça, il faut demander au revendeur si vraiment il est vendu ou si c'est simplement un coup de com'. Parce que là, ça sent l'entourloupe à 100 000 lieues. Alors, ce vin, alors, de quoi y a-t-il fait? Il est fait à 98% de cabernet, parce qu'il a beaucoup communiqué sur le fait qu'il a planté des cépages anciens, mais il n'y a que 2% des cépages anciens, oubliés. Alors, ça, il a une raison logique, et il explique, ces cépages anciens, ils sont de plantation récente, donc ils ne rentreront pas dans le vin. Après, on ne sait pas, donc on ne peut pas prétendre qu'un vin à 98% de cabernet sauvignon, c'est le goût du vin de Bordeaux autrefois. Parce que j'ai regardé les annales de Château-Latour, par exemple, à Pauillac, dont a parlé brillamment Philippe tout à l'heure, au milieu du 19e siècle, Château-Latour avait une dominante de Malbec.
Bon, voilà, c'était...
Voilà, donc il n'y a pas de Malbec dans son vin, donc on pourrait dire qu'il y avait une clé vers le passé avec le Malbec, mais il n'a pas mis du Malbec. Je ne sais pas ce qu'il fait. Alors, il dit qu'il laboure avec des ânes du Portugal. Bon,
c'est ça qui coûte cher, en fait.
Oui, mais ça doit coûter une blinde, ces trucs-là.
Je ne sais pas si on fait les chemins de catalan, il est beaucoup moins cher.
Alors, il doit les amener sur le chemin de Compostelle en marche inverse, donc c'est un sens interdit, normalement.
Bon, ok, donc aucun intérêt.
Non, c'est du pipeau total.
Ni ce monsieur, ni le vin.
Monsieur Loïc Pasquet, je crois qu'il prend les gens pour des crêpes.
Très bien, qui se garde ses bouteilles. Merci, David Cabol. L'Union de Sud Radio retrouve Corinne Boulbès, co-rédactrice en chef de la revue des œnologues, responsable de ce fameux festival international de films sur la vigne et le vin, Euno Vidéo. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'un film que vous avez adoré.
Oui, je me suis dit, pour cette première chronique vin et cinéma, j'ai pas résisté à l'envie de vous faire découvrir un long métrage tout à fait étonnant, mené tambour battant comme une véritable enquête. Alors c'est un film qui part à la recherche de la vérité.
Le titre du film.
Grande question. Oh, ça va venir. Attendez, le suspense.
Oui,
le suspense.
C'est ça quand on est trop rapide.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, on part sur le réalisateur Stéphane Bellé. Il nous emmène sur les traces de ce que lui appelle une véritable tentative d'assassinat. Mais qui sont donc les victimes de ce polar viticole passionnant? Eh bien, ce sont les cépages. Et l'arme du crime n'est autre que la réglementation française. Donc, au cours du film, on apprend en effet qu'en 1934, une poignée de cépages a été déclassée et purement et simplement mis au ban, et les vins qui en sont issus interdits, accusés de tous les maux, rendus coupables d'avoir mauvais goût et même incriminés de rendre fou. Alors voilà, Vitis Prohibita, le retour des cépages résistants, est le titre évocateur de ce documentaire. Il a été projeté en avant-première au 26e Festival Euno Vidéo.
Qui s'est déroulé où déjà, Corinne, vous nous le rappelez?
Qui s'était déroulé à l'invitation du MUCEM et de la ville de Marseille. Il a remporté haut la main à l'unanimité du grand jury le prix du meilleur long métrage et il sort en salle là dans quelques jours, mercredi, le 6 novembre. Alors, vous me direz pourquoi...
Je vais courir aller voir ça.
Oui, c'est super. Donc, mais pourquoi donc, ces cépages ont-ils été interdits ? De quel mot on accuse ces six cépages dont les noms sont tout droit sortis d'une autre époque ? L'Isabelle, le Jacquet, le Noah, l'Othello. Pour dénouer ce mystère, Stéphane Ballet se lance avec sa caméra dans une enquête vertigineuse et collecte des témoignages édifiants auprès de viticulteurs, de pépiniéristes, de chercheurs. Et au fur et à mesure des témoignages, tour à tour, émouvants, détonnants, cocasses, toute la complexité du sujet s'éclaire. Parce que c'est très complexe, vous allez voir. Et on comprend que ces parias, bien loin d'être mauvais, ont des qualités inestimables qui pourraient, bien loin de nous empoisonner, nous sauver. Car ces cépages résistent bel et bien aux maladies. Ils sont naturellement adaptés au changement climatique et donc permettent de s'affranchir des pesticides. Et le scénario prend un tour inattendu quand on réalise que les paysans, que des paysans rebelles, bravant les législations extrêmement hostiles, en dépit de très mauvaises réputations de ces cépages, n'ont cessé, en secret, de cultiver des cépages interdits, convaincus de leur vraie valeur. En fait, c'est tout l'esprit de rébellion des Cévennes qui transparaît et qui fait écho dans toute l'Europe, où maintenant des associations se forment, où des militants se regroupent et font du bruit. Convaincus que les cépages résistants n'ont pas dit leur dernier mot, Stéphane Bellet, le réalisateur, saisit sa caméra, engagée, citoyenne, pour leur donner la parole. Et propose pour la première fois, à travers ce documentaire, une vision d'ensemble super bien documentée sur les enjeux qui se trament derrière tout ce sujet-là. Et ce film, il manque pas de contraste. On part dans les Cévennes, mais il nous fait aussi voyager dans d'autres contrées. On fait des allers-retours entre l'Ancien et le Nouveau Monde. Et le récit débute au XIXe siècle, avec la grande crise du phylloxéra. Et il nous apporte petit à petit un nouveau regard, moi, ce que j'appelle ces vilains petits canards de la viticulture française, qui se révèlent être une solution d'avenir pour une viticulture respectueuse de l'environnement, vous l'avez compris. En effet, donc, ces cépages, ils résistent aux maladies, et donc ce sont des vins écologiques d'avant l'heure. Aujourd'hui, des associations se battent. Elles demandent la révision de l'interdiction pour qu'on l'on puisse recommencer à planter ces cépages interdits et aussi produire ces fameux vins qui, paraît-il, à bonne maturité, semblent dotés d'arômes extraordinaires de framboises. Donc, en plus d'être passionnant et stimulant, ce documentaire impertinent et très pédagogique. Quand on en sort, on est plus intelligent et on ignore plus que c'est qu'un cépage résistant, une vigne hybride.
C'est un peu comme une vidéo Sud Radio.
Oui, c'est ça.
Exactement.
Version vidéo.
Conforme, ouais.
Et en plus, ce documentaire, à mon sens, est terriblement actuel. Parce que c'est le récit d'une vraie bataille politique et juridique, celle de David contre Goliath, pour faire tomber une prohibition imposée par des vieilles lois, infondées, injustes, obsolètes, dont le point final n'est pas encore posé. On est encore en plein suspense. Hein. D'ailleurs, je ne devrais pas le dire, mais il y a un tome 2 qui est déjà en préparation par le réalisateur. Et puis ce film, il ouvre aussi un véritable débat autour de notre société de consommation, standardisée, avec des goûts formatés. Donc là, ça ouvre des perspectives. Pour finir, je peux vous citer les verbatims, les mots du grand jury Novideo, ce qu'ils ont déclaré à la sortie du visionnage du film. Ils ont dit « Ce film, en nous parlant du passé et du présent, nous parle surtout de l'avenir. C'est un acte de résistance, un acte de responsabilité, un acte de liberté, un acte d'amour pour le vin. »
Ah, voilà. C'est beau ça. Et là, vous nous rappelez le titre du film ?
Alors, Vitis Prohibita, le retour des cépages interdits.
Et il est réalisé par qui, ce documentaire ?
Stéphane Bellet.
Voilà, et ça sortira dans quelques jours, quoi.
Et ça sort mercredi.
Bon, c'est excellent ça, David. Hein. Ça donne envie. Hein. Merci Corinne. Hein.
Ça donne très envie. Ouais. Moi, j'ai juste envie de redire quelque chose sur ce monsieur Loïc Pasquet, parce que quand quelqu'un crache dans le bassinet et assassine tous ses concurrents, c'est-à-dire l'ensemble du reste du Bordelais, je suis méfiant. Je dis, quelqu'un qui a besoin de dire du mal de tous les autres vinificateurs quasiment en France, qui ne sont pas lui, je pense qu'il a un problème, ce monsieur. Parce que c'est ce qu'il dit. Il décrit tout Bordeaux, il décrit les crus classés, il décrit les bas prix pour les Bordeaux entrée de gamme. Il n'aime personne, bon, sauf lui-même.
On s'en fout de lui, non ?
Non, on s'en fout de lui, mais je trouve que déjà quelqu'un qui prend cette approche démolir l'ensemble de la concurrence, parce qu'il faut parler ainsi, c'est pas crédible.
Allons au cinéma,
Allez, on n'en parlera plus.
Voilà, je vais aller au cinéma pour me reconcilier.
Et, ouais. Et donc là, donc il a le grand prix, et donc il a gagné, vous dites, Corinne, haut la main.
Le prix du meilleur long métrage.
D'accord.
Et la dernière fois, vous me demandiez où était la prochaine destination.
Exactement. Est-ce qu'il y a un scoop alors?
Je ne pouvais pas vous le dire.
Ah bon. Et maintenant, c'est officiel,
mais
là.
Maintenant, c'est officiel. Donc, je peux vous annoncer que le prochain festival, Eunovideo, aura lieu du 28 au 31 mai et que c'est la ville de Cognac et le Grand Cognac qui ont remporté haut la main la candidature de cette année.
Ah, super. C'est génial, quoi. Génial. Ça sera la combien de édition, Corinne?
La 27e.
27e, bravo. C'est formidable ce que vous faites en famille avec vos milliards de bénévoles, hein, qui sont aussi là pour vous aider, quoi. Merci également à vous, Florence Corbalan, Philippe Orbach et David Cobol. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.fr ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Ça y est, c'est l'heure. Excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.
Invino, avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.